occupée aux frais de la journée.
On voit l'influence des catholiques dans le bassin stéphanois.
La quête. Non, elle est déconfessionnalisée. Bon, Michel, si vous voulez peut-être faire un petit mot de synthèse.
Je dirais pas grand-chose. Je ferai moins de 10 minutes. Simplement, je pense que cet après-midi, nous avons assisté à un triple décentrement, un décentrement chronologique, c'est-à-dire qu'on est revenu très largement, sauf peut-être dans la dernière intervention, sur la période avant 68, en montrant comment la crise était prégnante déjà et visible, perceptible, avant 68, ce qui démolit un peu plus ce mythe des Trente Glorieuses, mais bon, ça c'est un autre sujet. Deuxième décentrement, on a quitté l'usine et la rue et on est rentré dans les organismes de recherche, dans les organismes de formation, dans les partis politiques et aussi on s'est décentré vers une histoire politique. On a un peu quitté l'histoire sociale, pas trop quand même, et vers une histoire politique. Donc on a vraiment bougé, on a vu sur toute sa... je crois, l'espace, cette crise, puisque c'était le sujet donc, de la journée. Donc, je n'irai pas plus loin et on va prendre les questions. Toujours la même chose, vous vous nommez au micro parce que c'est enregistré.
Comme ça. Bon, Pierre Thiolière. On a beaucoup parlé ce matin, enfin un petit peu, pardon, ce matin, cet après-midi, de la CFDT du PSU. Bon, moi, j'étais militant du PSU depuis 69. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un basculement à la fois du syndicat CFDT et du PSU. Depuis des premières positions qui étaient plus de volonté de dépassement du capitalisme. Et puis à un moment donné, avec Edmond Maire notamment, bon, la CFDT a basculé vers plutôt un accompagnement du capitalisme et un repli sur des positions purement syndicales et moins de volonté de transformation sociale, enfin, de la société dans son ensemble. Et il s'est passé un peu la même chose au niveau politique, c'est-à-dire au moment où, dans la Loire, une majorité du PSU a pensé pouvoir faire du PS un grand PSU et puis en fait s'est fait absorber par un PS... qui s'est révélé très vite dans la continuité d'une orientation social-démocrate d'accompagnement du capitalisme. Et ceci mélangé avec une difficulté de percevoir la dimension révolutionnaire du PC à cause de l'image de l'Europe de l'Est, ces deux phénomènes combinés, donc la tendance dominante social-démocrate d'accompagnement du capitalisme plus une image dégradée du PC, à cause de l'Est, à cause du phénomène de l'Europe de l'Est, a fait que, globalement, le mouvement ouvrier, dans sa dimension syndicale et politique, s'est résigné à abandonner l'idée de transformation radicale et de dépassement du capitalisme. Bon, on est encore un peu dans cette situation. Quelqu'un a dit ce matin, il y avait un peu deux ou trois ans, 80, 83, où il y a eu quelques tentatives d'avancer vite. Et puis, on est revenu à une dominante de résignation au néolibéralisme. Et je me demande s'il n'y a pas un peu un parallélisme avec la situation présente, où les tentatives de transformation, de dépassement du capitalisme de l'époque 68, des années 70, n'est pas en train de se reproduire avec... devant la situation catastrophique actuelle avec le Front de Gauche, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un parallélisme avec cette période-là, cet affrontement entre deux lignes, finalement, une ligne de résignation et une ligne d'essayer de renouveler l'espoir, quand même.
Bien, c'est moins une question qu'une démonstration. Merci pour ce témoignage, en tout cas.
Oui, une question à Jean-Michel Stenner et deux à Jacques Hyon. Pour Jean-Michel, que font les municipalités successives à Saint-Étienne face, que font-elles ou qu'essayent-elles de faire face à cette dégradation de la situation économique? Quelle conscience ont-elles ou n'ont-elles pas de tout cela? Et pour Jacques, deux questions. La première, donc, le CRESAL, si j'ai bien compris, est créé en 58 et rattaché au CNRS à partir de 74. Mais quel est son statut entre les deux ? Voilà, je me posais cette question. Et la deuxième, dans cette mouvance que tu as évoquée, à la fois donc, un ancrage local avec des contacts à Lyon et à Paris, tu n'as pas évoqué la Chambard de l'eau. Est-ce qu'il est là ? Quel lien a-t-il ? Et voilà.
Peut-être vous allez répondre tout de suite.
Oui, l'action pardon, des municipalités, je l'ai dit, mais je suis passé effectivement un peu rapidement, c'est surtout une réponse technique, mais qui prouve peut-être que les municipalités n'ont pas de pouvoir, surtout à cette époque-là. La loi de décentralisation a peut-être changé un peu les choses. J'ai oublié ton prénom déjà. Georges, voilà, a évoqué aussi un peu la question. Le grand problème qui est discuté, c'est le redéploiement des espaces industriels. En gros, avec tout cet héritage qui date du 19e siècle, qui fait qu'il y a une imbrication qui est absolument inimaginable, peut-être dans d'autres villes, entre lieu d'habitation, lieu de... Oui,
pareil.
Villeurbanne, peut-être, effectivement. Mais bon, il y a quand même le problème de la salubrité, le problème de cette imbrication entre atelier et lieu d'habitation, qui fait que voilà, la grande idée, c'est qu'il faut des zones industrielles. Donc, et on profite de la disparition, de la libération des emprises charbonnières pour développer les zones industrielles sur la zone ouest, notamment la Chauvetière, par exemple. Donc ça, c'est la première... La Chazotte, sur la partie est. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est un peu pour ça que j'ai commencé mon introduction par cette allusion à l'émission de France Inter, c'est changer l'image de la ville. Et on voit que finalement, on n'y est pas vraiment arrivé. Et puis, bon, la troisième, bien sûr, qui est récurrente, qui vient de très loin, hein, parce que au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était pas une autoroute qu'on réclamait, mais c'était un canal pour aller de la Loire au Rhône. Donc là, le problème de l'enclavement, qui est une réalité quand même. Hein. Quand on lit dans certaines brochures que la Saint-Étienne est un grand carrefour, ça fait rigoler quand même. Ça fait rigoler. C'est vrai que c'est une réalité qui pèse beaucoup. Et pour rebondir sur l'actualité. Le débat sur la 45, en 1935, c'est pratiquement la première, peut-être la deuxième, parce qu'il y a l'autoroute de l'Ouest parisien, qui est projetée. Il y a des études qui sont faites, il y a une brochure qui est faite. C'est le tracé actuel de la 45. Et si elle n'a pas été faite, c'est en partie grâce à M. Pinet, qui voulait que l'autoroute passe dans sa ville. Voilà. Donc c'est aussi effectivement une façon de voir comment les élites ont pu faire des erreurs qui se payent très cher maintenant.
Bon, sur le premier point, c'est le statut du centre, c'est ça ? Oui, c'est très complexe, parce que le centre fonctionne avant 1958. Avant 1958, avec des gens qui sont salariés dans divers organismes. J'ai parlé de la SAGMA, j'aurais pu parler de l'IMSA et aussi une autre entreprise de mécanographie qui est implantée à Marseille. Il est association à partir de 1958 et il le reste, il disparaît dans les années 80 en tant qu'association. En 1974, il est équipe de recherche associée au CNRS. Et à ce moment-là, il intègre l'université Jean Monnet. Sous la responsabilité de Pierre Milstud, qui est à ce moment-là professeur d'économie. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est de. Je vais aller très vite dans les différents courants à l'origine de Chazal. Je n'ai pas dit notamment les liens qui pouvaient exister entre le scoutisme et le premier courant dont j'ai parlé, à savoir les ingénieurs des grandes écoles préoccupés de transformer un peu les rapports de travail, beaucoup sont passés par le scoutisme. Et c'est vrai aussi des fondateurs du CESAL à Saint-Étienne. Et c'est vrai aussi que, aussi bien Lebray que Henault sont passés par l'école de cadre du Riage, voilà, où ils ont rencontré Dumazlier et Chambard de Drôme. Et, je crois même que Dumazlier est dans une école régionale de cadre autre que celle du Riage, hein, dont, à Saint-Étienne. Donc, il y a la mer noire, merci. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces problèmes-là. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il y a des proximités fortes.
Oui, je crois que pour me faire pardonner ma mauvaise blague du début, là, on a démontré quand même cet après-midi que l'importance des milieux catholiques de tous ordres dans la formation des militants et dans la vie politique et économique de la région, hein, ce qui avait déjà souligné Xavier Vignat ce matin.
D'autres interventions.
Oui, Serge Proust. C'est une remarque que je ne voulais pas faire, mais bref. Non, c'est sur la question des mots que l'on emploie, parce que c'est un terme qu'on emploie régulièrement depuis ce matin, et c'est aussi une discussion que je viens d'avoir tout à l'heure avec Xavier Vignat, y compris par rapport à son bouquin, c'est sur la question du mot « crise » qui revient de manière récurrente. Bon, je pense que c'est à la fois un enjeu politique et un enjeu théorique, je pense qu'il faut abandonner ce mot « crise ». C'est-à-dire qu'une crise qui dure depuis 40 ans, ce n'est plus une crise. Que les militants, que les organisations dans les années 70 l'aient vécu comme une crise, voire comme une crise classique du capitalisme, voire une crise de surproduction, enfin, ou des choses comme ça, avec des réponses classiques qui avaient pu être apportées aux différentes crises du capitalisme depuis 150 ans, ça, c'est une chose. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler en 2013. En tout cas, on voit bien que c'est des discussions qui ont lieu. Alors, il y a des tas de réponses. Hein, je ne vais pas les donner là maintenant. Mais je pense qu'il faut qu'on abandonne ce mot « crise » parce que, enfin voilà, si ça dure depuis 40 ans, on n'est plus dans une prise. Alors, on l'appelle autrement, une restructuration, un nouveau capitalisme, enfin, une troisième révolution industrielle. Enfin, bref, hein, il y a des tas de réponses. Hein, il y a des tas de réponses. Mais on n'est plus dans ça. On est dans tout autre chose. Et ce n'est pas anodin, à mon sens, qu'on continue à employer ce mot-là. Parce que je pense que en continuant d'employer ce mot-là, il y a quelque chose que l'on rate.
Il faut peut-être distinguer. On a fait par ailleurs un séminaire pendant plusieurs années sur cette notion de crise et la notion de conscience de crise. Il faut quand même distinguer quand le mot crise est employé par les acteurs et les actrices au moment précis, hein, des catégories autochtones, et puis après, les catégories d'analyse. Donc, est-ce que ce sont des catégories... Alors, vous avez parlé des catégories d'analyse de militants, mais je pense qu'il y a aussi des catégories d'analyse de sociologues, d'historiens, par exemple, sur cette notion de crise. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de grande dépression, comme on l'a parlé à la fin du 19e, et qu'il ne faut plus parler de crise. Ça, c'est un sujet de comparaison et de longue durée, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut quand même distinguer sur qui emploie quoi et à quel moment. Par exemple, voilà, bon, je ne vais pas m'étendre.
Je suis d'accord, hein, mais précisément, parce que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de bien distinguer, je pense que précisément, il faut qu'à chaque fois... en forçant le trait, je pense qu'à chaque fois qu'on utilise le terme, il faudrait que l'on précise à chaque fois de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce que c'est des cadres de perception des acteurs sociaux à ce moment-là dont on parle ? Bon, ça, ce qui est une chose. Ou est-ce que c'est nous, quand nous parlons rétrospectivement de cette période, qui parlons ? Et donc, quand c'est nous qui parlons rétrospectivement de cette période, je pense qu'effectivement... Et je suis d'accord avec la distinction que vous opérez. Et donc, précisément, quand nous rejetons ce regard rétrospectif, ce qui est plus facile, je pense qu'il faut que, justement, on abandonne ce mot-là. Quoi.
Gilles Richard.
Gilles Richard, pour poursuivre ce que dit Serge sur la crise, ça me fait penser, je voulais faire une remarque sur les 30 Glorieuses, mais Xavier en a déjà parlé hier dans sa conférence. C'est vraiment très habituel aujourd'hui de parler des 30 Glorieuses, mais je vous rappelle que pendant les 30 Glorieuses, enfin vous le savez, tous les gens ici, on ne parlait jamais des 30 Glorieuses, hein, de même que pendant la Belle Époque, on n'appelait pas ça la Belle Époque. Bon. L'invention des 30 Glorieuses, c'est une construction politique extrêmement savante, enfin, qui a été bien pensée par Jean Fourastier, hein, quand il écrit son livre en 1979. Et Jean Fourastier, c'est un des principaux, enfin, c'est un des hommes les plus proches de Raymond Barre. D'ailleurs, la fin de son livre, Les 30 Glorieuses, se termine par un hymne à la politique de Raymond Barre, qui a été un des hommes clés du commissariat général au plan, mais surtout probablement il a un vrai talent d'écrivain, donc le plus grand vulgarisateur et communicant, voilà, hein, des théories, des conceptions qui s'élaboraient au plan. Et précisément, en parlant du plan, on a parlé du cinquième plan, je crois, à un moment cet après-midi. Ce cinquième plan qui est le premier plan quinquennal, hein, qui couvre 65-70. Ce plan, donc, incarne le pompidolisme, puisqu'il prévoit, il planifie la restructuration économique autour de très grands groupes que l'État encourage et la disparition d'autres groupes, et il planifie, il intègre pour la première fois l'idée qu'il va y avoir un chômage structurel, hein, en y mettant une limite tout de même, hein, puisque, et c'est la théorie de Pompidou après qu'il a dit plusieurs fois, au-delà de 500 000 chômeurs, je ne sais pas comment on pourra tenir. Hein. Et c'est dans ce contexte, je vous rappelle, que c'est dans la lignée du cinquième plan qu'on nomme, comme on sait que ces restructurations vont créer du chômage important, on crée en 1967 un nouveau ministère, le secrétariat d'État aux problèmes de l'emploi, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est confié au jeune Jacques Chirac en mars 67, qui met en place à l'automne 67 la NPE. Bien. La montée du chômage. Ce matin, j'ai parlé de 74 et en parlant après en aparté avec Michel, elle me rappelait tout à fait à juste titre qu'on dépasse le million de chômeurs en 77, et en fait 76 selon la CGT. Mais il y a bien un problème de hausse brutale du chômage en l'espace d'une année, 74-75, où le chômage double, hein, en une année. Mais ce problème est bien plus ancien. Et il n'est pas non plus le résultat d'une fatalité, hein, puisque je vous rappelle aussi que c'est sous le gouvernement Pompidou, à partir de 62, qu'on met en place une politique systématique d'immigration, hein, au moment où l'on sait très bien que, à partir de 62, les gens sortent de l'école à 16 ans et qu'il y a des tranches d'âge considérables qui arrivent sur le marché du travail. Voilà. Donc il y a bien une organisation. La création d'un volant de chômage. 62, c'est l'année. Et où arrive en plus, bien sûr, 1 million de pieds noirs, hein, à qui il faut donner de l'emploi. Et 62, c'est le moment où le nombre de chômeurs a été le plus bas de toute la période 45 à nos jours. Moins de 50 000 chômeurs qui restent au chômage en moyenne moins d'un mois. Vous imaginez un peu. Or, c'est précisément à ce moment-là qu'on organise le BUMIDOM, hein, le bureau d'immigration des DOM-TOM. Hein, donc, ça, c'est le gouvernement Pompidou, c'est une de ses premières mesures qu'il prend, hein, au moment où il y a les pieds noirs. Voilà. J'ai une chose encore ou deux sur la Loire, ou pas ?
Oui,
non, oui. Deux choses sur la Loire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que, une autre question.
Alors, pour Georges Guay, pour la mise en place de la CAFL, Pinet est très directement impliqué, hein. Il œuvre, il est à la manœuvre, et il est tout à fait pour cela, il la favorise. Hein. Les rapports des préfets le montrent, et en même temps n'en disent pas grand-chose, puisque c'est la limite des rapports des préfets. Quand les préfets font des rapports au ministère de l'Intérieur sur un homme qui vient d'être président du Conseil, ils disent pas grand-chose, ils se mouillent pas, parce que c'est un peu compliqué pour eux. Quoi, hein. Bon, je veux dire, le préfet face à Pinet en 53, il pèse pas lourd. Quoi, hein. Surtout que Pinet n'est pas un homme très agréable toujours, et plutôt autocrate. Hein. Bon. Donc, mais il a joué un très grand rôle. Voilà. Dès 51. Et puis sur Fraissinette, bah, ça c'est justement un des grands échecs du CNIP et de Pinet, que de ne pas avoir réussi à intégrer Fraissinette, puisqu'il est gaulliste, et à un moment il est dans ceux qui soutiennent Pinet. Il est mis sur la liste des sénatoriales en 55, mais fausse manip dans leur calcul, il n'est pas élu, et à partir de là, Fraissinette n'est plus content, et donc, hop, il va passer, il ne va plus jamais aller au CNIP, et il va être dans des petits partis qui lui permettent de maintenir son rôle d'arbitre, centre républicain, etc. Voilà.
Dernière question, oui.
Juste, excusez-moi. C'était juste pour rebondir sur Pinet. La lecture de tous les rapports autour de la question de l'expansion économique en 54-55, il faut être honnête, Pinet, sur cette question de la relance de la région stéphanoise, il n'est absolument pas impliqué. C'est effectivement quelque chose qui lui passe complètement au-dessus. Et quand De Fraissinette lui s'implique, c'est pour empêcher la fuite des usines vers Andrézieux. Donc le jeu des politiques locaux, Bidault est associé, mais Bidault n'est jamais présent localement. Et même Claudius Petit, qui vient d'arriver à Firminy, finalement est tellement occupé avec les questions de l'habitat à Firminy qu'il ne s'implique pas avant 61 dans les questions de l'expansion économique.
Merci. Jean Guinan, concernant Pinet, mais ce n'est pas sur ça que je posais la question, concernant Pinet, puisque je suis un cheminot retraité, l'avantage qu'avaient les Saint-Chamonnais, c'est que tous les trains de voyageurs s'arrêtaient à Saint-Chamond. Même les directs de Saint-Étienne-Lyon s'arrêtaient à Saint-Chamond. Ça, c'est une anecdote. Non, je voulais poser la question à M. Vernet concernant l'enseignement professionnel, qui concerne plus spécialement la taxe d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites concernant la répartition de la taxe d'apprentissage, comment sa distribution, sa répartition et son utilisation? Parce que pour l'enseignement professionnel, je crois que moi, ayant dirigé, entre guillemets, ce dossier au niveau de la SNCF quand j'étais chargé de mission pour l'éducation nationale à Lyon, je sais les sommes importantes que ça représente.
Alors effectivement, vaste enjeu que la taxe d'apprentissage. Donc c'est un des objectifs quand même pour ma thèse de réussir à faire un tableau complet sur une cinquantaine d'années de l'évolution de la taxe. Donc sur la période considérée, alors il y a un souci, c'est que les dossiers annuels par entreprise, ça fait partie des choses que les archives pilonnent le plus facilement parmi tous les dossiers. Donc malheureusement, ça risque d'être un échantillon assez bref des choix de versement par école de chaque entreprise. Par contre, il sera, à mon avis, possible de trouver, pas forcément de manière continue, mais globalement, en tout cas, les volumes par année suivant enseignement public, enseignement privé. Ça, c'est à peu près sûr. Très longtemps, le volume de versement à l'enseignement privé dépasse l'enseignement public. Moi, donc ça je ne sais plus exactement la date, mais fin 60, début 70, enfin, l'enseignement public touche plus d'argent que l'enseignement privé. Donc c'est assez tardif. Et donc, après, sur... la répartition des sommes par école, là aussi, j'espère pouvoir le trouver. Donc effectivement, on aura toujours plus d'argent pour les écoles de garçons, donc type Mimard, Sainte-Barbe, Sainte-Thérèse à Saint-Étienne. Le CIPL et l'école des mines touchent énormément d'argent aussi. Et puis, il faut noter qu'effectivement, à partir de 71, quand il va y avoir la taxe d'apprentissage va être séparée, on va faire une taxe de formation continue à part. Et là, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, mais ça change aussi beaucoup les répartitions et la taxe de formation continue. Enfin, elle est créée, la taxe de formation continue, parce qu'en fait, elle parasitait complètement la taxe d'apprentissage. Donc effectivement, je ne peux pas avoir une vision globale, parce que je n'ai pas encore pu faire tout le traitement des données qui sont donc parcellaires, mais c'est très intéressant, effectivement, de voir. Par exemple, Yves de Gier va avoir tendance à verser beaucoup plus sur Lyon que sur Saint-Étienne. Les entreprises, c'est quelque chose d'assez clair.
Moi j'ai fait cette étude pour l'entre-deux-guerres, et il faut dire que évidemment la taxe d'apprentissage allait essentiellement à l'enseignement privé, c'est pas un scoop, mais qu'en revanche ça avait permis que se développe un certain nombre de formations techniques pour les garçons et aussi pour les filles, du fait que l'enseignement salaire, enfin les patrons donnaient à l'enseignement privé, éventuellement créaient des structures de techniques. Voilà. Peut-être on va arrêter.
Oui, on va peut-être arrêter les questions pour laisser la conclusion à Xavier Vigna, qui va nous faire une synthèse de cette journée. Vaste tâche ambitieuse.
Bon, comme vient de le dire Brigitte, il faut
les organisateurs du Grémousse, dont je salue vraiment l'initiative, parce que je trouve que ça a été une très belle journée. Ces organisateurs m'ont confié le soin de conclure. C'est un exercice qui est déjà compliqué, et il est encore davantage, puisque, comme le disait Michel tout à l'heure, la journée a montré une espèce de discordance des chronologies, chronologie économique, chronologie politique, sociale, en termes de formation. Et voilà. Donc la tâche est un peu difficile. Je vais quand même essayer de pointer trois éléments, voilà, sans prétendre résumer les débats, mais peut-être en même temps pour lancer quelques pistes. Bon, premier point sur la question de l'insubordination. Il me semble que les communications, surtout celles qu'on a entendues ce matin, montrent que, alors je ne sais pas si c'est la Loire ou si c'est le bassin stéphanois, mais en tout cas, ce territoire a connu, comme d'autres territoires en France, une insubordination marquée par des phénomènes de radicalité. J'ai été très sensible à ce qui a été dit sur le mai-juin 68 stéphanois. À cet égard, il ne me semble pas très différent de ce qu'on pouvait voir, par exemple, dans le Nord ou le Pas-de-Calais, avec une ampleur des grèves, une radicalité, une difficulté dans la reprise du travail au mois de juin, etc. etc. Et puis, un sursaut au printemps 73, une multiplication des grèves longues. Je ne sais pas où est Alban, mais il est là. Bon. On voit de plus en plus poindre ces conflits longs sur l'emploi et donc une espèce d'articulation compliquée entre l'insubordination et la question de la manière dont les salariés vivent la crise économique. Je mets « crise » entre guillemets. Par ailleurs, cette insubordination, dans la Loire comme ailleurs, s'articule avec d'autres mouvements de contestation, mouvement des femmes, mobilisation des immigrés, etc., etc. Avec la structuration, l'essor d'autres organisations, et de ce point de vue-là, une complexification du mouvement ouvrier. Quand même, si on raisonne sur le temps long, les années 68 ne peuvent pas, de ce point de vue-là, être comparées à ce qui s'est passé dans le second après-guerre ou au moment du Front populaire. On a un paysage organisationnel infiniment plus complexe, plus bigarré, et donc aussi des rapports de force passablement compliqués. Bon, ça, c'était le premier point que je voulais signaler. Deuxième point, ces contestations s'articulent ou cheminent, oui, le terme est plus exact, cheminent avec des transformations amples et des mutations du système productif qui sont très spectaculaires dans la Loire, quand même, parce que le déclin des houillères est à la fois rapide et très brutal. Mais il est visible, alors que le déclin du textile dont vous parliez, il est beaucoup plus spectaculaire, mais il est invisible. Et là, il y a des phénomènes qui mériteraient d'être mieux... sur lesquels il faut réfléchir. Voilà. Et ce qui me frappe en même temps, c'est la manière... Mais je ne sais pas, c'est une impression... Voilà, qu'il faut creuser, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'une région délaissée. Alors même qu'elle pourrait disposer de relais politiques au niveau central qui ne sont pas minces, j'en veux juste pour preuve le fait qu'en 67, il y a des commissaires à la reconversion industrielle qui sont nommés dans le Nord et en Lorraine, face à ce qu'on appelle alors la crise de la sidérurgie, et que dans la Loire, il n'y a rien. Enfin, rien n'a été évoqué de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il y a rien, mais en tout cas, rien n'a été évoqué. Bon. Ce qui pose la question de la responsabilité des élites dirigeantes, chère à Gilles Richard. Soit que ces élites soient défaillantes, soit qu'elles soient impuissantes. Impuissantes parce qu'elles ne comprennent pas, défaillantes parce qu'elles ne veulent pas voir. Ça, c'est du côté du politique, mais aussi du côté du patronat. J'ai en tête un article que j'aime beaucoup de Jean-Claude Domas sur le patronat elbeuvien, où il montre que face à la possibilité, face à l'implantation de Renault à Cléon, le patronat elbeuvien est très hostile
à cette implantation, parce qu'évidemment, ça va tout modifier. Et ce que disait Jean-Michel tout à l'heure sur le refus de l'implantation d'une usine d'aviation en 1929, il faudrait regarder sur le temps long, c'est-à-dire en quoi le patronat stéphanois traditionnel n'a pas voulu de ces transformations ou de ces reconversions industrielles, parce que ça allait bouleverser un équilibre qui était en train de vaciller. Bon. Dernière réflexion. Michel y a fait allusion tout à l'heure. Il y a eu un dossier de la revue 20e siècle en 2004 sur crise et conscience de crise. Et ce qui est très frappant en écoutant les diverses communications, c'est la précocité de cette conscience. Alors, je ne sais pas si, je sais pas quand est-ce que ça commence, cette conscience, mais en tout cas, il y a deux colloques qui ont été signalés, un en 64 autour de la CFDT-CFTC, hein, pour le redressement de l'économie stéphanoise, celui de 66 du Parti communiste. Et donc, c'est bien avant, c'est assez tôt dans les années 60, et ça ne va cesser cette conscience de crise va aller crescendo, jusqu'à cette mobilisation dont vous parliez au printemps 79 autour de « La Loire veut vivre ». Ce qui est intéressant, ça m'a fait penser « La Loire veut vivre » à une journée d'action le 8 mai 68 sur « L'Ouest veut vivre ». Et c'est-à-dire que on a là des espèces de chocs chronologiques et de thématiques qui sont assez amusants. Au printemps 68, je le rappelle, avant mai, on a toute une série de manifestations sur la question du chômage dans l'Ouest, dans le bassin stéphanois, bon. Sur ces thématiques de l'Ouest veut vivre, enfin, telle région veut vivre. Tout le monde veut vivre. Bon. Et ça pose la question de ce qu'un historien, René Le Bout, appelle le campanilisme. Parce qu'on a une espèce de focalisation sur son territoire dans lequel on vit, sans forcément penser que ces problèmes qu'affrontent ici, la Loire, sont des problèmes qu'on va retrouver ailleurs. Et il n'y a pas ou mal de conscience que ces questions ne sont pas des questions locales, mais sont des questions beaucoup plus vastes et qui mériteraient peut-être des formes de liaison nouvelles. En tout cas, ces formes de liaison nouvelles n'ont pas existé dans ces années-là. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. L'IP dont on parle souvent, je le rappelle, la deuxième lutte des LIP, ça a été une tentative de construire une coordination des entreprises en lutte qui a été sabordée par les organisations, les confédérations, les centrales syndicales, CFDT et CGT, qui ne voulaient pas que des entreprises, le personnel des entreprises en lutte se coordonne comme ça par-delà les structures syndicales classiques. Bon. D'où, et j'en termine, cette espèce de transfert, cette espérance à gauche. Gilles a rappelé avec cruauté que les néolibéraux ont été au pouvoir de manière quasiment continue depuis 1974. Et il a dit qu'il y avait une parenthèse de 2 ans, peut-être 3. Il me semble, après avoir lu le livre de Ludivine Bantini qui vient de sortir sur la France à l'heure du monde, que cette parenthèse n'a duré que quelques mois. Voilà. Je vous remercie.
Non, je voulais juste vous remercier pour votre présence et pour la qualité des débats et pour tous ceux qui ont fait de longs chemins pour venir jusqu'ici, espérant que cette journée contribuera à alimenter la recherche et la réflexion. Merci beaucoup. Bravo.